France Culture.
Les midis, deuxième partie, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec la poétesse Rim Battal qui publie son tout premier roman, Je me regarderai dans les yeux. Mais tout de suite, place au point culture de Sophie-Catherine Gallet. Bonjour Sophie-Catherine.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. L'un des premiers décrets signés par Donald Trump le jour de son investiture portait sur l'architecture. Il souhaite que les bâtiments officiels soient désormais construits selon des normes esthétiques plus traditionnelles. En 2020, Donald Trump était allé plus loin en précisant qu'il voulait faire table rase du brutalisme. En parallèle, l'AFD en Allemagne a critiqué ces derniers temps un autre mouvement, le Bauhaus. Les liens entre architecture moderniste et politique, c'est notre dossier du jour. Michaël Labbé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en esthétique et philosophie de l'art à l'Université de Strasbourg. Vous êtes notamment spécialiste de philosophie de l'architecture et de la ville. Alors, il faut peut-être rappeler d'emblée, en fait, à quoi ressemblent au fond ces deux architectures. Quelles sont les différences ou les similitudes concrètes entre Bauhaus et brutalisme ?
Alors, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que ce sont deux mouvements qui sont affiliés à l'architecture moderne, mais qui sont chronologiquement distincts, puisque le Bauhaus appartient aux grandes avant-gardes des années 20, là où le brutalisme est né dans les années 50, donc après-guerre. Ce sont deux mouvements qui mobilisent pour créer des formes architecturales, des éléments géométriques assez élémentaires, qui utilisent le béton, mais d'une manière tout à fait différente au fond dans l'architecture du Bauhaus. Vous avez un éloge au fond de formes blanches, légères, d'un béton qui est retravaillé. Là où la caractéristique du brutalisme, c'est justement d'avoir un traitement brut de décoffrage, sans lissage, sans retravail sur la surface du béton. Et une autre différence importante qu'on peut mettre en avant, c'est que dans le brutalisme, il y a vraiment une forte répétitivité, une très grande verticalité, un aspect extrêmement massif de ces bâtiments, qui est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on les critique très souvent. Et au fond, le brutalisme, c'est une réponse à la volonté de l'architecture moderne de produire des formes beaucoup plus monumentales, si vous voulez, moins légères, moins aériennes, etc.
Ces derniers temps, du coup, donc à la fois Donald Trump et l'AFD, qui est donc un parti allemand d'extrême droite, se sont justement donc dressés contre ces deux courants. En quoi, pour vous, cette architecture justement ne correspond pas à leur vision du monde ? Qu'est-ce qu'ils reprochent à ces mouvements-là ?
Je pense que d'une part, il y a une forme d'instrumentalisation du mouvement moderne pour ces mouvements-là peuvent investir par là la sphère culturelle, mener une certaine bataille culturelle, et c'est un conflit autour des valeurs au fond, face à des mouvements qui ont été traditionnellement assimilés à des mouvements prisés par les élites de gauche. Mais si on veut dérouler un peu, si vous voulez, les reproches qui reprennent au fond une rhétorique assez traditionnelle de critiques qui ont pu déjà être adressées par les nazis au Bauhaus à l'époque, il y a des arguments de nature esthétique, ce seraient des architectures d'une laideur confondante. Il y a des reproches qui relèvent plus du registre au fond de l'exaltation d'une identité nationaliste, là où l'architecture moderne, et que ce soit le Bauhaus ou le brutalisme, sont des architectures à visée universelle, un style international, déraciné selon eux, etc. Il y a tout un tas d'arguments qui sont aussi de nature plus directement populiste. On voit très bien dans les rhétoriques de Trump ou de l'AFD, au fond, qu'il s'agit de jouer le goût des élites contre le goût supposé du peuple. Mais il y a également... si vous voulez, des arguments et des relents parfois franchement xénophobes, notamment de la part de l'AFD, puisque nombre d'artistes et d'architectes composant le Bauhaus étaient juifs, quoi. L'exaltation aussi d'un passé fantasmé, une certaine vision du pouvoir. Donc il y a très clairement un conflit de valeurs entre ces deux types de mouvements. Quoi.
Ouais. Vous parliez là de pouvoir et l'AFD justement considère aussi que ces constructions architecturales donc du Bauhaus véhiculent une pensée communiste. Alors au fond, est-ce que toute architecture est nécessairement politique, vu que j'imagine que quand on construit un bâtiment, on forme aussi une pensée. Mais est-ce que l'architecture moderniste l'est particulièrement ?
Alors je pense que toute architecture est nécessairement politique, mais pas au sens forcément où elle va incarner ou représenter une idéologie particulière et de manière déterminée. Mais c'est clair que l'architecture, c'est un art du quotidien qui est au cœur de la cité, du social, qui est omniprésent partout et donc qui a une dimension politique en quelque sorte intrinsèque. Et c'est d'autant plus vrai pour le modernisme. Le modernisme avait une prétention qui était bien plus large, si vous voulez, que de développer un nouveau style esthétique ou de promouvoir des nouvelles formes architecturales. Le modernisme, son mot d'ordre, au fond, c'est la croyance qu'on peut changer la vie par l'art et l'architecture en particulier. Donc, il y a une certaine vision du social, de la société, qui est au cœur du modernisme.
Donc, le Bauhaus et le brutalisme sont donc rejetés par Donald Trump et l'AFD. Mais en face, en Italie, il y a ces derniers temps de Giorgia Meloni qui encense, elle, le futurisme, alors ce qui semble a priori paradoxal, puisque ce mouvement préconisait lui aussi un rejet des traditions et exaltait une forme de modernité. Alors, en quoi l'architecture, la pensée futuriste se rapprocherait-elle plus d'une vision du monde compatible avec l'extrême droite? Comment résoudre ce paradoxe, finalement?
Alors absolument, ça peut a priori apparaître comme totalement paradoxal, mais on pourrait déjà rappeler qu'au fond, si on regarde l'histoire du rapport entre l'architecture moderne et les pouvoirs autoritaires d'avant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire italienne, elle est un peu à part au fond. Parce que, à la différence d'Hitler ou de Staline, Mussolini, en tout cas dans la première phase de son exercice du pouvoir, était très favorable à l'architecture moderne et notamment au futurisme. Par ailleurs, le futurisme est un mouvement qui, à la différence du Bauhaus, a été associé et souvent régulièrement condamné ou critiqué pour sa proximité avec l'idéologie fasciste. Donc au fond, pour Meloni, il s'agit ici, dans une visée là aussi nationaliste, de réécriture du récit national, de réhabiliter un mouvement qui a été décrié et qui exalte des valeurs qu'elle peut juger proches de ses propres préoccupations. Donc notamment une très forte technophilie, un éloge de la machine, une vision un peu viriliste et guerrière du monde, qui peut aller plus directement s'acoquiner avec une pensée comme celle de Meloni que le Bauhaus par rapport à l'AFD, quoi.
Et alors Donald Trump, pardon, met en exergue une volonté de recourir à une architecture classique, traditionnelle, en fait plus ou moins à l'image de la Maison Blanche. Alors que raconte ce choix de privilégier cette architecture-là en particulier? Est-ce que il y a déjà eu des chefs d'État dans l'histoire moderne qui ont imposé comme ça une architecture?
Effectivement, c'est là aussi très paradoxal parce que celui qui est au fond le critique par excellence de la bureaucratie, des ingérences de l'État est en train d'essayer d'imposer une forme d'architecture d'État ou de style d'État pour les monuments publics. Et c'est vraiment étrange qu'il fasse recours à une architecture néoclassique du passé pour se faire. Alors évidemment, ce choix-là, il se fait contre les alternatives brutalistes ou contre aussi le fait qu'on pourrait aujourd'hui essayer d'inventer une architecture avec des formes très très différentes, notamment dans un souci ou dans un cadre écologique, etc. Et donc, au fond, voilà, c'est un appel classique au néoclassique et à des valeurs supposées stables, pérennes, à l'idéalisation fantasmée d'un passé, au fond, qui est ici celui des pères fondateurs et qui colle très bien avec une partie de la rhétorique de Trump. On l'a vu dans son discours d'investiture, l'appel quand même assez hallucinant parfois au temps idéalisé de la frontière, etc. quoi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, trois revues de musique classique amenées à disparaître.
Oui, l'ensemble des salariés des magazines Pianiste, L'Avant-Scène et Classica ont appris il y a quelques jours leur licenciement pour des raisons économiques, malgré leur rachat en décembre par le groupe Albin Michel. Fondés entre 1976 et 2000, ces trois titres de référence devront donc cesser leurs activités d'ici quelques mois. Interrogé hier par nos confrères de France Musique, Philippe Venturini, le rédacteur en chef de Classica, déclarait pardon, c'est un très mauvais signe. Je reçois beaucoup d'inquiétudes de la part des musiciens qui craignent d'être encore moins visibles, moins audibles et moins représentés.
Et pour finir, Sophie-Catherine Gallet, la France va proposer l'inscription de deux nouveaux sites à l'UNESCO.
Le ministère de la Culture a en effet déposé hier les dossiers des plages du débarquement et de la forteresse de Carcassonne en vue de leur inscription potentielle au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'institution examinera ces deux propositions en juillet 2026. Concernant les plages normandes, la candidature regroupe les cinq secteurs terrestres et maritimes du débarquement du 6 juin 1944. Quant à la seconde candidature, elle regroupe les fortifications de Carcassonne,
construite au XIIIe et XIVe siècle, mais aussi sept autres châteaux situés à proximité comme Montségur et Quéribus.
C'est très beau, ces châteaux d'ailleurs. Merci Sophie Catherine, et demain c'est Marie Sorbier qu'on retrouve pour un nouveau Point Culture.